Polysécur, épisode spécial. Je suis avec Martin. Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Très bien aussi. On est sur une terrasse, il fait beau dehors, c'est merveilleux.
C'est incroyable.
On était dû. On était très dû.
Ça fait super plaisir, man. Honnêtement, on est lundi d'ailleurs, puis genre le soleil, puis la température, puis les écureuils qui se battent dans les arbres, c'est vraiment excellent.
C'est effectivement très excellent. C'est l'été qui commence, c'est très agréable. Sujet qu'on va aborder, c'est... ça fait longtemps qu'on est supposé aborder le sujet en question. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est sur la base de ton mandat que tu as fait il y a déjà un certain temps sur des tests d'intrusion sur LTE. Ça part comme ça, mais c'est d'autant plus intéressant parce qu'on a beaucoup parlé avant de commencer à se décider d'enregistrer.
Mm-hmm.
Et on va le démarrer sur la curiosité, parce que quand tu as eu ce mandat-là, initialement, tu avais une connaissance plutôt faible de la technologie spécifique.
Ouais.
Puis ce qui a amené ensuite jusqu'à temps un énorme succès avec ce mandat-là d'ailleurs et tout ce chemin-là. Fait que je vais te laisser commencer à mettre les bases, puis on va voir où cette conversation-là va nous mener.
Excellent. Ben, en effet, j'ai tombé dans le pentest vraiment pour des raisons de curiosité depuis de nombreuses années. Puis même dans les débuts, tu sais, bon, si vous allez voir mon LinkedIn, vous savez que j'ai travaillé chez GoSecure. Puis on était une jeune équipe à la base, plein de jeunes, tu sais, qui ont, en fait, au début, plusieurs personnes qui n'ont jamais fait ça. Puis on a tout appris sur le tas à la base, la curiosité comme baseline. Puis moi, je me suis toujours distingué comme quelqu'un qui aime faire des choses que j'ai jamais faites. T'sais. J'utilise cette énergie-là, je me pitche dans le vide, puis je me démerde pour comme me sortir la merde, on va dire. Puis ça a toujours resté. Puis encore aujourd'hui, t'sais, j'adore des mandats qui me font avancer. T'sais. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité de faire un test sur du LTE qui était quand même un monde parallèle. Là. Si tu as fait de l'informatique, là, du Windows, du Linux pendant des années, on est ailleurs. Là. LTE, c'est extrêmement propriétaire. C'est un monde de télécom.
C'est très complexe. J'ai fait un peu dans le monde de la télécom, la radiocom. Pas dans le LTE spécifique, mais juste tous les protocoles et l'espèce de passerelle TI, électronique et tout ça, c'est vraiment un amalgame étrange à mon sens, c'est un Frankenstein là, essentiellement. Et le LTE, c'est comme une évolution par-dessus d'anciennes technologies de choses qui ont grandi comme ça. Là.
Absolument. Puis pour, tu sais, c'est l'entité 3GPP là, qui est derrière tout ça. Puis ils ont fait évoluer le protocole à coup de quelques années. Tu sais, le 3G, 4G, 5G, etc. Honnêtement, à chaque itération, là, c'est des acronymes qui changent en plus. Fait que là, si tu connais LTE, qui est le 4G de mémoire, ben, tu connais pas nécessairement grand-chose du 3G puis du 5G. Tu sais, c'est des mots différents, c'est des acronymes différents, ça a juste pas rapport.
C'est même des designs différents parce que justement, ça me rappelle une des premières conversations qu'on avait eues sur le sujet. Le LTE 4G, c'est des réseaux qui sont plus plats de facto que les autres itérations. Là.
En effet. En fait, tu as toute la notion de VLAN là, qui existe là, avec des OPN, là, ben, au moins à partir de 4G, qui appellent ça des OPN, là, Access Point Network, je crois. Puis, mais tu sais, dans le monde de la télécom, là, t'as pas vraiment besoin de VLAN. Là, ton téléphone cellulaire, il se branche à un réseau public, puis ça marche, tu sais, c'est tout. Là. Avec ta carte SIM, tout est magique. Mais mon contexte particulier, c'était un réseau LTE privé. Tu sais, fait que là, il utilisait la notion de voyons, APN. Puis en plus, tu pouvais, tu sais, il y a d'autres contrôles qui existent dans le monde du LTE, encore là. Pas du tout utile dans le monde du cellulaire ordinaire. Les fameux IMEI lock, là, fait que ça, c'est pour dire telle carte SIM va juste marcher avec tel matériel. Un genre de... C'est comme si tu bindais l'adresse IP avec une adresse MAC, un peu de choses près. Ben là, moi, j'aurais pas d'adresse IP ou le mot de passe WPA2 puis l'adresse MAC, on va dire ça de même. Ben, tu sais, dans le monde du public, ça n'a pas rapport, mais dans les réseaux privés où là tu veux sécuriser tes affaires, ça existe. T'sais. Fait que. Mais ouais, pour revenir à l'histoire, tu sais. Écoute, opportunité, comme dans tout ce qui est entrepreneuriat en général, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver à un moment donné. Martin, on cherche un pentester pour tester telle affaire. Puis cette affaire-là, je devais avouer qu'il est quand même intéressant. Tu sais, il y avait le concept du réseau LTE qui était intéressant, mais l'environnement autour, sans aller dans les détails, était particulièrement cool aussi. Fait que je me suis dit, let's go, on se lance. Puis honnêtement, comme je racontais un peu tantôt, j'ai eu beaucoup de préparation. J'ai acheté du matériel. Je me suis acheté mon Blade RF pour ce test-là. J'ai appris comment l'utiliser. J'ai leveragé l'AI à côté. Jusque dans la chambre d'hôtel, préparer des payloads, des affaires de même. Mais aussi dans l'avion, je pense jamais autant étudié un sujet de toute ma vie. Là, parce que je voulais arriver prêt, évidemment. Mais ça devient comme facile se préparer quand le sujet t'intéresse, tu sais, puis que tu sais que tu vas sortir de là grandi. Là. Fait que c'est pas loin de 15 présentations du DEFCON, parce qu'au DEFCON, peut-être une ou deux par année, t'as un dude random qui arrive puis qui présente un bon talk sur les LTE. Tout le monde est impressionné parce que personne connaît ça. Là. Bon, ben, je les ai tous écoutés un par un. J'ai regardé des PDF. Checker les attaques imaginables sur LTE pour se rendre compte que ça revient tout le temps au même. Là, t'sais. Je me laisse impressionner par genre, waouh! Mais c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. TAU injection, puis au final, tous ces devices-là, ils ont des adresses IP, c'est des vieux services, puis tu peux. C'est des API, puis tu peux faire des cochonneries avec ça, comme on le connaît. Là. Mais ouais, tu sais, moi, si j'avais quelque chose à dire justement à tous ceux qui écoutent ton podcast, là, c'est de pas laisser le sentiment d'imposteur, tu sais, driver nos décisions. Là. Parce que, tu sais, on fait bien des jokes dans le domaine là, qu'on est tous des experts.
ouais, mettons.
Mais, tu sais, c'est quoi un expert? C'est quelqu'un qui a travaillé fort dans quelque chose puis qui s'est développé, tu sais. Mais c'est parce que ça prend tout le temps une première fois. Là, fait que se lancer dans le vide, puis se faire confiance, puis développer ses skills, c'est
personnel. Ça, c'est intéressant, tu l'amènes comme ça. Puis ça vient limiter, puis justement, on parlait de ces sujets connexes juste avant. Mm. Le fait d'être un expert fait que tu viens de limiter ta capacité d'apprendre parce que tu ne sortiras jamais de ta zone de confort parce que tu es un expert, donc tu ne voudras jamais perdre ce statut-là que tu porte comme ton linge finalement et tu t'y attaches très très fortement et là tu te mets à risque puis c'est ça que tu as fait, tu t'es mis à risque puis là tu parlais d'imposteur, je suis pas d'accord parce que t'es pas interpellé avec genre je prétends chose, tu t'arrives là avec l'ouverture et la capacité et la volonté d'apprendre ce qui puis de mon expérience c'est ce qui change complètement la portée de ce que tu fais parce que dans ma vie moi aussi à bien des égards il y a des moments où je savais pas ce que je faisais. Je suis arrivé là, je savais pas ce que je faisais. J'ai appris à le faire en le faisant, là, parce que tu le fais. Mais ça n'empêche que c'est un petit stress au départ.
Ben, 100%. Puis il faut se faire confiance. Comment dire? C'est vrai que c'est stressant. Puis t'as raison, on n'est pas imposteur pour autant, là, juste parce qu'on se lance dans le vide, puis tu sais. Parce que un peu comme tu disais, en fait, là, qui m'a fait réfléchir justement à notre deuxième bière, c'est on a un bagage d'expérience, puis on peut capitaliser dessus. Tu sais, moi, ça, je sais pas, je vais dire un chiffre, je suis à peu près à ma 15e année là, à faire de l'offensif, 14-15. Fait que tu sais, à un moment donné, là, c'est tout le temps les mêmes patterns. C'est juste les acronymes qui changent. Fait que là, tu sais, penser croche, penser comme un attaquant, tu sais, c'est relativement inné, là. Fait que juste de se faire confiance, dire, OK, j'en ai hacké du Windows plus Linux, là, je m'en vais tester des ondes sous d'autres fréquences moins habituelles, là, mais c'est tout, c'est des protocoles. Puis là, en plus, tu sais, c'était dans la dernière année, l'AI a comme contribué à rendre plein de sujets accessibles. Fait que c'est pas compliqué, là. C'est ça, tu te lances dans le vide, tu essaies quelque chose, puis quand ça a été le temps d'écrire des payloads, là, tu sais, je comprenais, à baser, mettons, sur les slides du DevCon que j'avais étudié si fort, je comprenais deux, trois attaques que je voulais faire, tester sur place. Mais je savais qu'écrire le code en C avec des ondes puis toute la shit autour, ça aurait été un challenge. Fait que je me suis amusé avec VS Code, puis j'ai fait faire des payloads avec un framework, le SRS RAN, là, justement, qui est un framework pour simuler un réseau LTE. Fait que là, tu peux te popper un réseau LTE puis te tester avec ton cellulaire, si tu veux. Mais quand c'était temps d'écrire des payloads dans des formats de messages précis, tu sais, injectés à des places, ben, je l'ai fait avec ça. Puis en une soirée à l'hôtel, ça a marché, tu sais. Fait que, genre, à un moment donné, il faut se faire confiance, il faut juste essayer des trucs, puis... Puis ça a été du dépassement personnel aussi. Là, t'sais. Puis le but, c'est pas de braguer, by the way, c'est de parler de curiosité. Mais, mais justement, tu faut s'amuser avec la technologie. T'sais. C'est ça qui nous a amené dans le domaine un peu, là, jongler, puis patenter. Puis... Ouais, moi, je vois ça de même personnellement.
Ouais, oui, tout à fait. Je trouve ça super intéressant parce que, de toute façon, on a un point commun assez important sur l'espace de la curiosité. On est là parce qu'on est hors norme aussi, on pense à ça. Et de passer justement, d'être capable de pivoter, puis c'est un peu l'aspect aussi que j'aime beaucoup des expériences que tu relates. C'est un, parce que dans les faits, c'est un pivot quand même assez fort. Là. Tu sais, de passer de genre de pentest à Linux à un pentest d'un réseau LTE, le pivot n'est pas nécessairement si facile que ça. Parce que tu as appris à fonctionner avec le RF, avec ta carte. T'as réussi à monter, là, t'as réussi à comprendre les interactions et de commencer à d'utiliser le payload. C'est pas au-delà du fait que je trouve ça quand même relativement impressionnant d'avoir fait ça. Je l'aurais probablement fait aussi, mais avec un petit coup de jaune de pression.
VS Code en est pour beaucoup. Mon ami VS Code.
Mais ça a quand même sur la base de ta connaissance préalable, dont toute l'importance de cultiver cette curiosité-là tout le temps, parce que t'enrichis et tu continues à enrichir ta base parce que à ton prochaine intervention, ben, tu vas partir plus loin encore que tu es parti cette fois-là et donc tu gagnes tout le temps et tu vas être capable. Comment je le vis moi, c'est ma capacité de pivoter augmente avec l'âge et non l'inverse. Je deviens plus souple, étonnamment, pas physiquement, là, mais mentalement, je suis plus souple.
Oui, ouais, plus souple. Plus ça, plus ouvert, plus. Ouais, ben, on se laisse moins impressionner par les acronymes puis l'inconnu au final. Là. Puis, tu sais, quoi de plus simple pour apprendre un acronyme que de le googler à l'ancienne? Je veux dire, dès qu'il y a un petit inconnu, hop, on le cherche, puis on l'apprend, puis on n'a pas à l'apprendre deux fois. Tu sais, on bâtit par-dessus. Puis, honnêtement, faut pas se laisser trop impressionner par le monde du LTE. Oui, c'est fucké, c'est différent, mais il y a un parallèle, tu sais, un pour un quasiment. Là. Un VLAN, c'est ça là son équivalent. Les adresses IP, ça reste des adresses IP. Au lieu d'avoir 12 channels, t'en as beaucoup plus parce que bon, ça a été fait pour des antennes cellulaires que. Au lieu d'avoir une maison à fournir, là, tu parlais d'angle mort tantôt. Oui, le Wi-Fi, c'est imparfait, mais LTE, justement, toutes les layers, toutes les versions qu'ils ont fait, c'est pour améliorer la performance. Puis aujourd'hui, une antenne, c'est des milliers d'utilisateurs de devices que ça peut processer en même temps. Fait que, d'ailleurs, je comprends pourquoi l'entreprise a choisi cette technologie-là. Ça a le plus de portée, c'est plus fiable. Le latency de roaming, donc passer d'une antenne à une autre, c'est quelques secondes versus le Wi-Fi, c'est beaucoup de secondes. Fait que, puis ouais, tu peux faire des VLAN, tu peux tout faire rendu là, puis c'est encrypté par défaut. Non, pour vrai, c'est une belle technologie. Là.
Oui, bon, au-delà de la technologie, tu as parlé, puis je sais que c'est dans un mandat, puis tu peux pas tout divulguer. Une fois que tu as fait cet apprentissage-là, cette curiosité-là, c'est imbibé. Comment tu as exécuté ton mandat, justement, puis à quel point tu as réussi à casser le l'implémentation de ce réseau LTE-là pour, dans le fond, pour aider ton client à s'améliorer?
C'était tout ça a parti d'un plan de test, puis tout ça a été construit à partir d'un threat model. Fait que je peux peut-être faire une parenthèse threat model si tu me le permets.
Je te le permets.
C'est un client, au premier aperçu, il était relativement mature parce qu'il m'a exigé de faire un threat model avant de faire le test. En fait, avant de faire le plan de test. Puis le plan de test devait être approuvé par des stakeholders, puis après ça, on faisait les tests. Donc, tu sais, je pouvais pas arriver là avec mon Blade RF puis dire « Yo, on va hacker, je vais envoyer des fréquences random sur votre infrastructure critique. » Non. Ça devait être structuré, planifié, et pourquoi, puis répondre au pourquoi à l'avance. Fait que, plan de test. C'est le plan de test qui répondait à ces questions-là. Mais pour faire le plan de test, l'équipe de sécurité voulait que ce soit fondé sur les risques. Donc, on a fait un modèle de menace, threat model en anglais. Puis ça, ça a été révélateur. En gros, on a fait des ateliers, on a suivi sensiblement la méthode de l'OAS pour faire du threat modeling. Puis on est parti vraiment avec plein de gens dans la même salle. Puis OK, c'est quoi qu'on sécurise? Puis, tu sais, réseau LTE veut aussi dire un des gros morceaux du LTE, c'est le SIM provisioning. Fait que, tu sais, mettons que tu es dans un Wi-Fi 4G, 2,4 GHz ou du 5, tu gères, tu as deux grosses familles de protocoles, là, mettons WPA 2 ou 3 personnel, ben là, tu as un passkey, pre-shared key, pardon, puis tu te logues avec un mot de passe. Tu peux avoir plusieurs mots de passe si tu veux, à donner un par personne. Puis si tu fais du WPA 2 ou 3 entreprise, ben là, tu vas être un peu plus avec des user password de domaine et tout et tout. C'est pas mal, ça se limite là, mais dans le monde du LTE, c'est des cartes SIM. Les cartes SIM, ils ont des clés d'encryption dessus. Puis la façon que la carte SIM est faite, quand c'est des protocoles récents, parce qu'il y a eu des vulnérabilités dans le passé, ben la clé, elle s'extrait pas. Tu peux pas la sortir facilement. Là. C'est intégré à la carte. Puis la seule copie qu'il y a, ça va être dans un HSS, ou en tout cas dans un... Ça va être le fournisseur, celui qui a construit la clé, qui va avoir une copie pour pouvoir l'insérer dans le réseau puis autoriser, on va dire, des devices. Là, je sais même plus pourquoi je parle de ça, man. Je suis complètement mêlé.
Oui. Quoi? T'as trouvé?
Non, mais.
T'as-tu
on parlait de pourquoi?
Oui, pourquoi?
Ma curiosité m'a amené à faire quoi dans le test? C'est ça que tu m'as demandé?
Oui, ben c'est ça, d'aller chercher. Ouais, là, tu as commencé à parler du fait que, de fait, le fonctionnement du LTE est différent, donc tu peux pas rentrer. Donc, la SIM étant l'espèce de passage de l'appareil jusque sur le réseau.
Exactement. Hey, pardon, c'est parce qu'on fait une parenthèse, une parenthèse, une parenthèse. Fait que là, je suis comme. J'ai un stack flow dans ma tête. Mais je reviens, on parlait de threat modeling. Puis on a fait un threat modeling sur quoi? Parce qu'un threat modeling, tu peux en faire sur plein d'affaires, mais là, il fallait choisir. Puis on a choisi le SIM provisioning comme sujet principal. Ça veut dire comment on donne accès à ce réseau-là. Puis les cartes SIM, il y a tout l'aspect de la sécurité autour de ça. Fait que là, on parlait du plan de test tantôt. T'sais, faire un plan de test dans ce réseau-là, on aurait pu dire, OK, on va essayer de trouver des zero day sur l'implémentation du vendor qui gère le core network du LTE. Mais à la place, on s'est dit non, on va comprendre ce qui a été mis en place, les processus. Le SIM provisioning, c'est comment on gère des cartes SIM. OK, c'est beau. Ça avait acheté X 1000 cartes SIM. Là. Comment ils ont été provisionnés? Puis c'est quel API? Puis c'est quoi les systèmes qui impliquent ça? Puis fait que là, juste ça, là, ça a été la question de départ. Ça a été l'objet d'une semaine de workshop. Puis d'atelier, puis ben, workshop, c'est un atelier random. Puis de passer, c'est ça, plusieurs, un de suite, puis creuser ce sujet-là, ça l'a permis de trouver, d'un, des vulnérabilités qui n'ont pas besoin d'être testées, des hypothèses de vulnérabilités qu'on a pu tester. Puis au final, ça l'a fait un plan de test. On a fait un plan de test basé sur plein de menaces potentielles. Puis j'ai trouvé ça fascinant, justement, toute la valeur ajoutée de ça. Puis aujourd'hui, j'en fais la promotion. Là, puis j'ai vraiment aimé ça, donner une présentation avec Jonathan Marcel au Nortech pour ça. Là, parce que c'était comme une révélation. Tu sais, Parce qu'on a l'habitude de prendre un scope et de l'accepter tel qu'il est. OK, le client nous demande de tester X, on va tester X. Mais là, on avait la chance de dire, basé sur le risque, il faut tester X, Y puis Z.
Mais c'est le client qui l'a demandé dans ce cas-ci de le faire comme ça, au lieu de faire dans un cas plus classique où on se fait imposer un scope qui, en général, de nos yeux d'experts, ne fait pas de sens parce qu'on ne sera pas capable d'aller mesurer quelque chose. Parce qu'il faut se rappeler qu'un pentest ou un red team, peu importe, c'est d'aller mesurer quelque chose pour être capable de s'améliorer après.
L'efficacité.
Fait que si le scope n'est pas bon, ben il n'y a pas de valeur.
On va tester l'efficacité des contrôles, tu sais, mais genre, si tu me dis, teste l'application web, mais on teste pas ce qui est en arrière, on teste pas proche de la base de données, on teste pas les accès employés, tu sais. Puis ça, dans le cas présent, là, sans aller dans les détails, parce que, ben évidemment, je veux pas mettre ça sur la place publique, mais il y avait tellement de systèmes juste... Puis la raison pourquoi, parenthèse dans la mille parenthèse, c'est le client... C'est une grosse entreprise, puis l'équipe qui faisait ce réseau-là était très loin de la sécurité. C'est comme si la sécurité dans cette entreprise-là était pas impliquée. Fait qu'ils voulaient un chat model, c'était comme un bon prétexte pour être impliqué. Puis dans ces ateliers-là, la sécurité interagissait, réagissait, était super présente. Là. C'était d'ailleurs super le fun pour ça. Mais ceux qui avaient les réponses aux questions, c'était plus les ingénieurs qui avaient mis en place la solution. Fait que, puis c'était pas long qu'il y avait des petits soupirs ou il y avait des temps morts qui voulaient tout dire ou des fois qu'un temps mort, quelqu'un qui rebondissait, puis là, tu sais, ça explosait, là, tu sais, comme, OK, tu sais, l'exemple de l'OPI, là, je pense que j'en ai parlé, fait que je suis à l'aise d'en reparler, mais tu sais, tu mets en place un OPI pour surveiller, tu sais, puis monitorer, on va dire, des cartes SIM. Cool, pas de trouble, tu sais, t'as le droit. Là. Mais là, on commence juste à creuser la question. Moi, ouais, c'est quoi c'est-tu du fine grain? T'as-tu accès en lecture, en écriture? Tu sais, moi, j'assumais, tout le monde assumait dans la salle que c'est un accès en lecture, tu sais, c'est la base. Mais ah non, c'est un accès admin, ouais, comment ça? Ouais, mais c'est parce que le fournisseur le permet pas, tu sais. Mais on a mis des règles de pare-feu en place pour mitiger le risque, mais pas de trouble, tu sais, OK, ben. Personnellement, un accès admin, mais s'il est accessible d'une seule adresse IP dans le monde, c'est pas si pire, tu sais. Quasiment envie de passer à la prochaine question, que là, quelqu'un dit, on devrait peut-être le tester. Ben, OK, tu sais, je le rajoute au plan de test comme une formalité, là. Le plan de test, il y avait des trucs que je trouvais pertinents, puis des trucs que je faisais juste valider des assumptions, tu sais. Puis, eh ben, punch dans l'histoire, il n'y avait pas de règle de pare-feu. Tout le monde pensait qu'il y avait des règles de... Il y avait un email qui disait qu'il y avait des règles de pare-feu, mais il n'y avait pas de règles de pare-feu. Fait que là, creuse, puis là, le client découvre que il n'y en a jamais eu de crise de pare-feu. Genre, le client, le fournisseur, il a dit ça, mais son équipe d'ingénieurs n'a même pas mis ça en place parce qu'il trouve que ça n'a pas de valeur. Tu sais, genre, méga manque de communication majeure, puis qu'on l'identifie dans un atelier de threat modeling, tu sais. Plus un test qui a duré 5 minutes. Là. C'est pas très long à tester.
Oui, c'est fascinant. C'est intéressant parce que ce que tu regardes, puis je l'ai vécu en très grande entreprise, on voit ce genre de situation-là où les gens parlent, ont des présomptions qui font « Ouais, t'as la fête en place. » Puis souvent, on arrive dans des pentests ou dans des red teams qui vont justement, malheureusement, déclarer des choses qui n'ont jamais été mises en place ou que le contrôle qualité n'a jamais été mis là ou le déploiement post-fournisseur n'a pas été vérifié ou une série de choses comme ça. Et ça, c'est très courant dans la très grande entreprise, ce type de choses-là où les morceaux ne sont pas raccord, donc c'est deux équipes différentes qui s'occupent d'un dossier. Puis ça tombe entre les deux parce que personne pense que c'est sa responsabilité, pense que c'est l'ordre. Donc, on a plein de situations comme ça. Puis c'est fou. Puis c'est en système complexe, dès qu'on tombe dans ces environnements-là, la probabilité que ce que tu relates puisse arriver est énorme. Puis pour faire un exemple qui peut peut-être parler plus largement, c'est le cas de Boeing avec sa porte qui a décollé en plein dans les airs, là, qui avait fait les manchettes, tout ça, tout le monde a entendu parler de tout ce qui s'est passé.
Ouais.
La réalité de ce problème-là, est un problème de système complexe. Parce que construire un avion, c'est un système même très complexe. Et dans le cas de Boeing, et puis c'est pas, je ne veux pas nécessairement les excuser parce qu'il y a eu une erreur, il y a eu quand même un manquement dans l'histoire, c'est que c'est un fournisseur qui mettait en place la dite porte et qui fixait la porte. Et c'est un problème de communication entre le fournisseur et Boeing sur lequel colle l'information sur le fait de comment visser la porte en question n'a pas passé d'un système à l'autre, n'est pas passé du fournisseur à Boeing. Donc, il y a eu un vide informationnel qui a mené à l'incident qu'on a connu là. Non. Et heureusement, pas causé aucune perte de vie, rien. Personne n'a été blessé dans l'histoire. Mais il demeure que c'est un système complexe, un peu comme tu relates. Mm-hmm. Puis j'aime cet exemple-là parce qu'il est public puis il est très parlant sur le fait que tout ça est compliqué et des fois, on se retrouve dans cette situation-là et en grande entreprise aussi. Puis je te repasse la main. Il y a beaucoup de fournisseurs qui font plein de choses. Il y a rarement juste un maître d'œuvre. Tu as genre 1 million de maîtres d'œuvre qui font des petits bouts partout et qui n'ont pas nécessairement un API de communication efficace.
Il n'y a pas tout le temps des logs, puis c'est ça. Ouais. Les intrants, sortants. Tu m'as-tu donné une commande claire? Je signe quel papier quand j'ai fini? Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'après, tu te rends compte que dans ces environnements, il y a plein de règles aussi. Là, des fois, tu te dis, mais pourquoi il y a cette règle-là? Ah ben, c'est ça. Il y a dû avoir quelqu'un qui a manqué à un moment donné, puis tu niaises pas avec la règle. Mais on parlait de curiosité. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais racheter là-dessus, mais ce mandat-là, ben, peut-être raconter l'histoire. C'est ça. Threat Model, super... apprentissage super pertinent aujourd'hui, genre je ressors avec genre il faut en faire plus. Tu sais, trouver des vulnérabilités pendant des ateliers, ça coûte pas mal moins cher que les faire pendant un pen test. Puis pas besoin de le démontrer s'il manque des contrôles. Parce qu'après, nous, on va se concentrer sur tester l'efficacité des contrôles, puis c'est ça qui a de la valeur. Puis après, là, faire le plan de test, là, dire hey, ça nous prend tel accès. Tu sais, un plan de test, là, c'est genre qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Faut que tu définisses quel VLAN tu vas être branché. Hey, je vais être dans tel core network. J'ai besoin d'une carte SIM provisionnée pour simuler, mettons, une carte volée. Puis là, on va tester le contrôle, le IMEI lock que je parlais tantôt. OK, je l'ai volé. Je suis capable de spoofer une IMEI. Je peux-tu me loguer avec? T'sais, il marche-tu? Là? Vous vous faites dire qu'il marche, mais genre, il marche-tu vraiment le contrôle? Il y avait vraiment une portion pure LTE. Mais en vérité, il y avait aussi une portion pure networking, toutes des adresses IP, que on faisait des tests plus à l'ancienne. Mais dans des réseaux obscurs, dans des réseaux justement cachés avec des FTP pas secure, puis toute cette shit-là d'industriel, que tu fais des soupirs quand tu recheckes tes résultats d'Nmap, mais tu fais bon, OK, c'est correct. Ça m'a pris 2 jump holes MFA pour me rendre dans ce réseau-là. C'est pas demain la veille que quelqu'un va faire quelque chose. Quoique, on pourrait parler de segmentation réseau longtemps. Yeah. C'est ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Fait que, puis ça s'avérait beaucoup d'apprentissage, beaucoup, ouais, en effet, le test a été le fun, belle expérience. C'est une bébite spéciale, mais il faut pas se laisser impressionner. Au final, c'est juste des couches d'abstraction différentes, des acronymes différents. Puis moi, j'encourage vraiment tout le monde à se lancer dans des trucs qui les font progresser. Puis surtout à l'ère de l'AI, j'ai envie de dire, on avait une belle discussion sur les CTF tantôt. Puis, tu sais, je sais que c'est un sujet chaud en ce moment, là, c'est pas évident, là, mais tu sais, ça n'a jamais été aussi rapide, la courbe d'apprentissage, mais pas en profondeur, tu sais, juste. Apprendre un nouveau sujet demain matin, je veux dire, les jeunes de demain sont outillés. Là. Nous, c'était des livres puis l'Internet. Là. Aujourd'hui, c'est l'AI. Là, il peut te faire des beaux résumés dans la langue que tu veux, formater comme tu veux. C'est quand même capable de faire des trucs cool. Puis comme je disais, c'est pas des blagues là, que certaines payloads ont été entièrement. J'ai dit VS Code, mais c'est Copilot même. Là, puis honnêtement, à 2-3 erreurs près, ça marchait. Là. Fait que, tu sais, l'accessibilité vers weaponiser des trucs, monter des tests, faire des tests sur mesure. C'est, ça n'a jamais été aussi accessible. Fait que ça, ça me fascine personnellement, tout ce qui est AI.
Mais c'est intéressant. Ça a une facette que je trouve sur le AI, notamment ce que tu mentionnes. Historiquement, c'est des domaines qui étaient plus niches. Donc, tu avais genre 3 personnes dans le monde qui étaient capables de faire quelque chose avec ça spécifiquement pour arriver à ce que tu mentionnes. Quand maintenant, cette situation-là est différente, on est avec l'intelligence artificielle, on a une capacité augmentée d'aller approfondir des sujets. C'est pas les AI qui nous le fait, là, mais nous accompagne dans l'approfondissement d'un sujet, comme dans le cas que tu as fait là avec le LTE qui t'a propulsé beaucoup plus loin que si tu n'avais pas eu ça pour t'aider à progresser puis à alimenter ta curiosité pour foncer dans le sujet.
Mmh. Oui, exactement. T'sais, pour donner un peu de viande au sujet, c'était l'attaque du TAU injection. En gros, dans le monde du LTE, tu sais, si ton cellulaire, je vais vraiment vulgariser, là, mais ton cellulaire, il va un peu chercher, à un moment donné, envoyer des paquets, un peu du beaconing, là, tu sais, chercher, hey, quel tour cellulaire est disponible pour moi? Puis si la tour cellulaire te dit, t'as pas d'affaires ici, ben, par définition, par protocole, il devrait même pas réessayer de se connecter. Puis ça, c'est un déni de service. Puis là où ce que je m'en allais, toute forme de déni de service, c'était une haute priorité parce qu'il faut absolument jamais que ces appareils-là refusent de se reconnecter. T'sais. Fait que... Puis il suffisait, en tout cas, dans ma preuve de concept, c'était SRS-RAN, un tool qui monte un réseau cellulaire carrément. J'ai fait étudier le code par Copilot, j'ai dit... À quelle place est-ce qu'il faut modifier le protocole TAU pour que quand un device se connecte, t'envoie exactement tel message qui venait d'une présentation du DEFCON? Ben parce que le message, il était connu, puis c'était connu cette attaque-là de déni de service. Là. Il y a plein d'attaques sur le LTE, mais dans mon contexte, dans mon threat model, c'était pas du vol d'informations, c'était pas de l'espionnage de savoir quel device et où. Faire de la triangulation, c'était pas intéressant, c'était déni de service. Fait que j'ai pris toutes les attaques de déni de service, puis je les ai testées. Ben, pas toutes, je devrais pas dire toutes, mais ceux qui étaient le plus pertinents, le plus accessibles. Puis la beauté de celle-là, c'est que tu utilisais la puissance de l'antenne. Fait que t'as pas besoin d'avoir une antenne forte. Tu utilisais la force de l'antenne pour le faire.
Parce que l'antenne broadcast sa force et donc l'appareil va automatiquement aller sur l'antenne qui broadcast une force plus grande que l'autre. Ça, c'est vraiment étrange parce que par rapport au Wi-Fi qu'on a dans nos maisons, les équipements vont mesurer la force du signal. Mm. Et dans le contexte du cellulaire, c'est pas la force du signal mesurée qui est utilisée, mais la force de signal que la tour te dit qu'elle a. Fait que c'est vraiment très particulier. Fait que l'espace à faire ce genre d'injection-là, puis de se prétendre être une tour ou peu importe, est très, très, très facile par rapport à ce qu'on aurait dans d'autres circonstances.
C'est exactement. Il y a des attaques qui nécessitent une puissance d'envoi, puis il y en a d'autres que tu fais juste utiliser la force de l'antenne existante. Puis il me semble que c'est ça. TAU, c'est Tracking Area Update. Excuse-moi, je cherchais ça en même temps. Là. C'est vraiment un protocole pour un peu savoir les téléphones sont où. Puis c'est built-in, tu peux pas sécuriser ça. Là. C'est par design. D'ailleurs, j'avais lu un article du 3GPP, plutôt quelqu'un qui critiquait le 3GPP, qui disait que par design, c'est dangereux. T'sais. Mais ils ont fait le compromis performance puis roaming à la sécurité. Puis c'est un choix qu'ils ont fait. C'est choisi. Fait que même si on trouve de quoi. D'ailleurs, ce client-là, il était vulnérable. On avait réussi en lab là, à le faire. Par contre, il avait mis un watchdog qui fait que dès que ça se reproduisait, le device rebootait automatiquement. Puis donc, l'impact était très mitigé. Fait que, tu sais, plein d'efforts, mais il y avait quelque chose pour mitiger le risque de tout ça, puis j'étais bien content pour eux. Mais ça a permis de trouver, OK, oui, on est vulnérable, mais à cause d'un contrôle compensatoire, ben, c'est pas la fin du monde. Fait que, tu sais, il y a eu de ça, il y a eu plein d'affaires. Puis, non, c'était fascinant. Écoute, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus.
Bon, on va clore là-dessus. C'est très intéressant, un, d'avoir mixé justement le fait de l'importance de la curiosité, plus le fait de l'avoir mis dans un cas réel. Puis c'est pas ton premier, puis c'est sûrement pas ton dernier.
Non.
Qui va t'amener dans cette zone-là, qui va enrichir tes connaissances. Puis je trouve ça très intéressant. J'ai fait exactement la même chose. Si je me rapporte mon Wi-Fi, je l'ai fait il y a longtemps. J'ai fait cette espèce de passage de temps avec les cartes Orinoco, machin, à une certaine époque. Je l'ai fait la même chose avec d'autres technologies en radiocom, justement, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans des environnements comme ça, puis d'aller tester les technologies, les matériels en dessous, comment c'est pensé, puis justement de manœuvrer là-dedans. Ça m'a beaucoup enrichi comme professionnel, puis je trouve ça super intéressant l'expérience que tu as et le partage que tu as pu en faire.
Ben merci à toi. Ça m'a fait très plaisir.